avec la sagesse de toute la Torah entière dans chaque verset. Tandis que nous lisons chaque verset pour lui-même. C'est clair. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres difficultés dans cette partie du Midrash, on peut avancer. Il n'y a pas d'autres questions là-dessus. Il nous reste la question du parallèle avec Job. Et puis il y avait une autre question que j'avais dit plus tard, précédemment. Précédemment, j'ai entendu une question, j'ai dit, je répondrai plus tard. C'est la vôtre? Ah, les conséquences de l'épreuve, vous me rappellerez cela. Isaac va sortir transformé de cette épreuve. Voilà, Dieu t'a créé, et maintenant, il te demande de payer le prix de ton être. Et il n'y a pas d'autre prix de son être que son être. Il est prêt. C'est une piété de l'ami d'Assadine qui est ce qu'elle est, mais qui n'est pas la Torah. C'est la piété de Yitzhak, pas d'Israël. C'est un peu plus clair, cela. Je crois que là, nous avons de nouveau un sens très direct du verset qui revient si souvent dans la Torah comme Torah, Daber el Bene Israël. Parle aux enfants d'Israël. Alors on pourrait poser la question, ça je crois que c'est vraiment un chidouche. Pourquoi aux enfants d'Israël et pas aux enfants d'Abraham et aux enfants d'Isaac? Alors là on comprend. Okay. C'est aux enfants d'Israël que la Torah s'adresse et pas aux enfants d'Abraham et aux enfants d'Isaac. Les enfants d'Abraham peuvent mener le monde à la destruction. Parce que la mida d'Abraham couvre tous les crimes. La charité absolue couvre tous les crimes. Et les enfants d'Isaac peuvent mener le monde à la destruction, parce que la rigueur absolue, à la première faute, le monde est perdu. Mais Israël, c'est pas Abraham et c'est pas Isaac, encore une fois, c'est Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, et lorsqu'il a intégré cette unité, alors il reçoit le nom d'Israël. Donc, comme vous dites, Israël, c'est pas possible. Eh bien, c'est ça, Israël. Il y a un midrash qui dit, dans la Gemara de Rosh Hashanah, je me base sur ce midrash, avant sa naissance, Dieu propose à chaque homme un projet d'identité pour lui. Et il n'y a que ceux qui acceptent qui sont Israël. Alors nous avons oublié qu'avant la naissance, on a accepté cet héroïsme. Mais on a accepté puisqu'on est né là-dedans, comme ça. Donc il ne faut pas tellement s'étonner qu'Israël soit Israël. D'ailleurs, un de mes maîtres avait dit, je crois que c'est Shushani, le Rav Shushani qui avait dit ça, c'est peut-être une explication pourquoi il y a si peu de juifs dans le monde. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en ont eu le courage. Okay. Quelque chose de cette sorte. C'est clair ce que je dis. Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur cette partie du Midrash, on avance. Alors, nous sommes Yitzhak et Ishmael. Vous y êtes? Je vais vous dire quelle ligne. Une. À la huitième ligne du paragraphe. Yitzhak et Ishmael, hayu medayinim ze imze. Yitzhak et Ishmael, disputer l'un et l'autre ensemble. Ça veut dire il y a un conflit entre Isaac et Ishmael, comme si on ne le savait pas. Alors, ce midrash il est extraordinaire. Enfin, tout le midrash. Zéomer, l'un disait, il s'agit d'Ishmael, Ani chavi mimecha. Je suis plus précieux que toi, sous-entendu aux yeux de Dieu. Je suis plus aimé que toi. Chez Nimalti, l'Islos Sechana, parce que j'ai été circoncis à l'âge de 13 ans. Et ça veut dire adulte, et j'ai accepté, et je l'ai fait. Bon. Vezé Omer, et l'autre disait, c'est Yitzhak, Ani Chavi Mimecha. Je suis plus précieux que toi. Chez Nimalti, l'Ishmona Yamim. Parce que j'ai été circoncis à 8 jours. Là, j'ouvre une parenthèse, nous aurons demain une étude dans le Zohar que je vous avais annoncé dans les textes précédents, l'importance de la circoncision pour la promesse d'Eretz Israël. Et le conflit qu'il y a avec Ishmaël n'est pas le même, n'est pas de même nature que le conflit que nous aurions avec qui que ce soit d'autre sur Eretz Israël. Le monde entier réclame Eretz Israël, mais Ishmaël en particulier, parce que Ishmaël est circoncis. Donc nous verrons ce texte demain dans le Zohar. Et je referme la parenthèse ici, c'était simplement pour éclairer que le fait d'être circoncis à 8 jours a une importance. Et Isaac le sait. Alors la Tahana, comment dire, la plaidoirie d'Ishmaël, c'est de dire j'ai été circoncis adulte. Tandis que toi, Isaac, 8 jours, on ne t'a pas demandé ton avis, tu n'as aucun mérite. Vous êtes des juifs selon la chair, dirait Ishmaël, de naissance, vous n'avez strictement aucun mérite. Nous avons adopté, à un certain stade de notre civilisation, le monothéisme d'Abraham. C'est nous qui sommes Israël selon l'esprit. Vous voyez à peu près jusqu'où ça peut aller. Et Isaac répond, oui, mais moi c'est 8 jours. La parenthèse, l'importance de 8 jours, on l'étudiera demain. Okay? Alors Ishmaël. Alors Ishmaël réitère, Ani chaviv imecha. Je suis plus précieux que toi. La main, c'est la main ou les mains? La main. Shehaya sipek beyadi le machot velo machiti. Parce que j'aurais pu refuser et je n'ai pas refusé. C'est un peu ce que j'ai dit d'ailleurs précédemment. Beotasha, à ce moment, Amar Yitzhak, Yitzhak a dit, Halvai, Aya Nigle Alay Akadosh Baruch Hu, plutôt au ciel, Halvai, que Dieu se révèle à moi, Veomerli, et me dise, Shechtoch Echad Mevarai Velo Akev, que je tranche un de mes membres et que je ne refuse pas. Miyad, alors, on entend ces paroles, Vea Elohim, Nissa et Abraham. Et Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quelle épreuve? Prends ton fils, ton. Je vais lire la fin du Midrash, on reviendra sur l'étude de ce point. Nusra Acheret, autre manière d'exprimer le même enseignement, Amarlo Ishmael. Ishmael lui a dit, Ani Chaviv Imecha, je suis plus précieux que toi. Chez Nimati Lishur Sechrishana, puisque j'ai été circoncis à 13 ans, Abalata Nimalta Bekot Necha, mais toi tu as été circoncis dans ton enfance, Ve Iefchar Lemachot, ou Limchot, et cela ne t'était pas possible de refuser, Amalo Yitzhak, Isaac lui a répondu, Kolma, chez Il Veta Lekazu Baruchu, ce que tu as prêté à Dieu, Hu shlosha tipim damhem. Ce n'est que 3 gouttes de sang. Et là, mais hareni achshav, moi, je suis maintenant âgé de shloshim veshevarshana, de 37 ans. Ilu mevakesh li akadosh baruch hu. Si Dieu me demande les hishachet d'être égorgé, eni me'akev, je ne refuserai pas. Amar akadosh baruch hu. Dieu a dit, Haré Hachara, l'heure est arrivée, Miyad, et Dieu mit à l'épreuve Abraham. Bon, je crois que la forme est suffisamment précise maintenant pour qu'il n'y ait même plus à interpréter, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a une controverse entre les nations et Israël en tant que Yitzhak, et Israël en tant que Yitzhak est prêt à faire la preuve que réclament les nations. Alors vous comprenez mieux qu'est-ce que c'était ces anges du service. C'est ceux qui, les anges qui au tribunal céleste, sont les porte-paroles des nations du monde. Ve ha Elohim, vous rappelez, lui et son tribunal. Dans le tribunal du Dieu unique, il y a les avocats de toutes ces créatures. Et donc, lui plaide pour Israël, et les anges du service plaident pour les nations. Vous rappelez le parallèle avec la structure du Sanhédrin dont nous avons parlé au début du séminaire. Vous vous rappelez de ça? Bien, voilà donc maintenant le Midrash est clair. Si vous avez des questions, on le mettra au point. Sinon, on avancera sur les différents points du texte qui éclairent vos deux questions. Ken.
Le terme qui est employé ici dans le Midrash, aussi bien pour Yitzhak que pour Ishmael, c'est Habib.
Habib.
Ah, d'accord.
Habib, comme en arabe, Habib. Ça, c'est dit. C'est l'humour du Midrash. En plus, il emploie un mot d'Ishmaël. Habibi. Pardon ? Non, non, c'est le même mot en arabe et en hébreu. Non, non, la racine est la même. Mais c'est beaucoup plus employé chez Ishmaël que chez... C'est-à-dire, depuis que l'argot israélien, c'est l'arabe, alors on l'emploie. Non, c'est exactement comme ça. Habibi en israélien, c'est l'arabe. Et pourtant, c'est l'hébreu. Non, non, pas du tout. C'est une racine arabe aussi, la même. Il y a énormément de racines communes à l'hébreu et à l'arabe. Abraham. Ok. Dans leur nature, l'hospitalité arabe, c'est une légende. Cette hospitalité, c'est un débordement d'affectivité non contrôlé par la Midat Hadin. Alors le musulman, c'est, je dirais pas arabe, hein, Ishmaël. C'est Ishmaël prenant conscience du manque de l'idéal de Dine et en faisant son idéal. Nous l'avons vu déjà hier. C'est pourquoi en arabe, la religion s'appelle El-Din. Et c'est le même mot qu'en hébreu. Est-ce que c'est clair? D'après le principe que l'homme fait de son idéal la vertu qui lui manque. Alors lorsque Ishmaël est musulman, en principe ça va mieux. Parce qu'il a dans sa nature chesed, son idéal c'est Dine, et s'il le réalise, c'est un sadique. Il y a un seul problème, depuis qu'il y a l'islam, entre Ishmaël et Israël, c'est la réclamation de l'héritage d'Abraham. C'est-à-dire le problème que vous lisez dans les journaux. Nous n'avons pas de problème théologique avec eux, lorsqu'ils sont de vrais musulmans. Encore une fois, ce n'est pas le même monothéisme, mais il est compatible. Ce qui n'est pas le cas avec le monothéisme chrétien, où nous sommes en problème. Mais la controverse entre Ishmaël et Yitzhak, c'est l'héritage d'Abraham, c'est-à-dire la terre d'Israël. Alors, encore une fois, on ne sait pas de quoi il faut le plus s'étonner, de ce que les événements s'entêtent à justifier les textes, ou de ce que les textes s'entêtent à expliquer les événements. Enfin, il faut s'étonner des deux. On est en train de lire notre histoire dans le Midrash. Ken ? Qui veut le présenter ? Vous avez compris la réponse ? C'est-à-dire que, ça, si vous voulez, je vous donne la référence. C'est un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lorsque Ishmaël est un vrai musulman, il n'est plus ni idolâtre, ni débauché, ni assassin, ce sont les trois grandes fautes des païens. Et qu'est-ce qui reste dans la contestation ? C'est la contestation de l'héritage d'Abraham. Donc vous voyez que les rabbins du Midrash connaissaient nos problèmes. C'est les rabbins contemporains qui ne connaissent plus. Okay. Alors vous allez me dire, quoi, ils n'ont pas appris le Midrash ? Ben, demandez-le, moi j'en sais rien. Okay. Mais il n'y a pas à discuter, parce que il y a là un cheminement de l'être qui nous est expliqué au niveau métaphysique le plus profond. C'est l'itinéraire de l'existence. Alors l'itinéraire de l'existence du tzaddik de Chesed, c'est qu'à la fin de son cycle de épreuve de vertu, il sera éprouvé de la manière opposée à celle dont il connaissait la révélation de Dieu. Abraham connaît la révélation de Dieu par la charité, que cela. Et pour être vraiment l'homme de charité, mais relié à l'unité des valeurs, il faut qu'il soit capable d'être « Yéré Elohim », va dire le verset. Nous allons voir tout de suite un verset où Dieu dit, au moment où Abraham est prêt à sacrifier son fils, alors imaginez l'effort de ferveur. Je vous ai donné quelques indications tout à l'heure. Il était, c'était un scandale pour lui. Son message, c'est d'interdire les sacrifices humains au nom du Dieu qu'il proclame. Et ce Dieu qu'il proclame se révèle à lui pour lui demander le pire des sacrifices humains, celui qui est raconté dans la Passion. Et vous avez compris. C'était le fruit de la passion, si je veux dire. Et imaginez le drame d'Abraham. Okay. Eh bien, il est pieux. Et il est fort de sa piété. Il dit, bon, je ne comprends pas, mais c'est normal. Dieu me demande, je fais. Alors, dès qu'il est prêt à faire, Dieu lui dit, ne lui fais rien. Maintenant, je sais qui yere Elohim ata, que tu es aussi tzadik de la Midat Hadin. Et ça s'arrête là, l'histoire d'Abraham. Et la suite, c'est l'histoire d'Isaac qui recommence. C'est clair? Okay. On va voir le verset. Je vais vous dire quel est le... Alors, si vous allez prendre votre texte... Verset 12 du chapitre 22. C'est le dernier verset de cette page qui n'a pas de numéro, mais la traduction française, c'est la page 135. Voilà. Alors en hébreu, c'est Vayomer, Al tishlach yadecha el ha-nahar, ne porte pas ta main sur le nahar, il avait 37 ans, je ne peux pas traduire le jeune homme, Al ta'as lo me'uma, ne lui fait rien. Qui ata yadati, car maintenant je sais qui yere Elohim ata. En hébreu, c'est très clair. La midata chesed dit à Abraham, ne fais surtout rien. Maintenant je sais que tu es aussi yere de la midata din, tout est bien. C'est clair? Alors, il ne s'agit pas du tout de le sacrifier, mais d'avoir été prêt à le faire. C'est ça l'épreuve. Comment vous traduit en français? Ne porte pas la main sur ce jeune homme, ne lui fais rien, car désormais je sais que tu crains Dieu. C'est incompréhensible. Oui, c'est clair? Quoi, il ne savait pas avant Dieu que Abraham craignait Dieu? Ça ne veut rien dire en français. Pardon? Allez. Attends, tu as mal formulé ta question. Tu veux dire en réalité, mais est-ce qu'il fallait convaincre Dieu? Très bien. C'est-à-dire, les anges, porte-parole des nations, ne savent qu'Abraham est pieux que quand ils savent qu'il peut sacrifier son fils. Parce que pour eux, c'est ça la piété. Et c'est à ça qu'on assiste. Lorsque j'entends les prêtres non-juifs parler de la vertu d'Abraham, il a été capable de sacrifier son horreur. Okay. Mais c'est ça qu'ils retiennent. Et ils oublient qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Oui, à quel point tout est à l'envers. Okay. Ah, tu as très bien formulé cela. Il fallait convaincre les goïms qu'Abraham est capable de leur culte. Mais surtout, ne le fais pas, dit Dieu. Okay. J'ai ajouté, il a dit, Dieu préserve. Voilà, il faut lire le texte jusqu'au bout. C'est clair jusque-là. Oui. Oui. Non. Et Eliezer. Une version du Coran qui n'est pas reconnue par tous les théologiens musulmans sérieux. Dans la version qu'ils reconnaissent, Abraham sacrifie son fils et le Coran ne dit pas lequel. Mais certaines traditions, disons, chauvinistes, ismaélites, disent que c'est Ismaël.
Comme par hasard, c'est Francis possible d'Abraham.
J'ai fait allusion à ce séminaire à Eliezer, vous vous rappelez pas? Bon, en tout cas, je remarque que tu as un questionnement trinitaire perpétuel et systématique. Ben, mais c'est très bien, c'est dans la cohérence du texte. Bon, je parlerai d'Eliezer après, je voudrais d'abord terminer sur les questions que nous avons prises. Et alors, rappelez-moi qu'il y a aussi ce verset à voir, nous allons le voir, il est très important. Et les deux jeunes, autres que Isaac, qui accompagnent Abraham sur le chemin de la Hakedat Yisrael, mais ils doivent s'arrêter à un certain stade, et Abraham et Isaac seuls vont jusqu'au bout. Nous allons voir ce verset tout à l'heure. Okay. La Hakod. Ça, je vais expliquer après pour répondre à monsieur. Quelle est la conséquence de ce qui s'est passé? Alors ça nous mènera à mettre au point la traduction du terme. Littéralement, il faudrait traduire en français, mais sans expliquer, ça reste hermétique, la ligature d'Isaac. Le fait qu'Isaac ait été attaché, c'est cela l'événement pour Isaac. Mais vous voyez qu'il n'y a pas l'ombre de sacrifice dans ce récit. Parce que je ne comprends pas pourquoi il y a une telle culture sur ce texte, et on ne se rend pas compte qu'il faut lire jusqu'au bout, que le sacrifice n'a pas eu lieu. Et de quoi on félicite Abraham ? Du fait qu'il a voulu sacrifier son fils. Alors qu'il faut le féliciter du fait d'avoir obéi à ce que Dieu lui demande par la Midat Hadin, et surtout du fait qu'il n'a pas sacrifié son fils. Vous allez voir que l'épreuve la plus terrible, c'est quand Abraham doit ne pas sacrifier son fils. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, surtout ne lui fais rien. Il y a un Midrash qui explique comme ça. Pourquoi Dieu lui a dit, Al ta'atlo me'uma, ne lui fais rien. Parce que le Midrash dit, Abraham dit à Dieu, laisse-moi au moins lui faire une petite blessure. Et Dieu lui dit, rien. Expliquez ce Midrash. Alors, pourquoi Abraham a dit au moins une petite blessure? Imaginez un effort de ferveur colossal pour Abraham, et à aucun dégagement dans le passage à l'acte, c'est pas possible. C'était ça l'épreuve d'Abraham ultime. D'arriver à se maîtriser, après avoir quand même décidé, je le ferai quand même, et qu'il ne faut pas le faire. C'est clair? Au fond, Abraham a sacrifié son sacrifice, si on peut le dire comme ça. Okay. Par le fait? Non. Et nous étudions l'expression du verset « et ne lui fait rien », qui est de trop. Alors le Midrash explique qu'il avait tendance à le faire quand même. Puisque Dieu lui dit ne lui fait pas, il ne le fera pas, mais au moins quelque chose, pour que ça s'exprime, ça se dégage, comme j'ai dit. Et non, Abraham ne pensait pas à faire le sacrifice de l'animal, c'est Dieu qui le lui demande, dans la suite du texte. Alors ça, c'est encore autre chose, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais vous me le rappellerez si on n'a pas le temps. Et que représente ce bélier qui était là? Le Midrash va nous dire, depuis la création du monde, ce bélier était là pour attendre de remplacer Isaac. Et je ne veux pas anticiper là-dessus. Alors je crois qu'il faut mettre ça en évidence. Que ce même texte, lu par des hommes différents, finalement, dégage une religion différente. Et que la différence n'est pas dans le texte. Elle vient dans les hommes, elle est dans les hommes qui lisent. C'est clair ce que je dis là? Je connais cette carte, oui. Ça a été fait par une secte chrétienne dont je crois les pentecôtistes. Une très longue carte. Oui. Oui, oui. Attendez que on parle quand même, il me semble. Oui. Il n'y a pas les jacobites. Dans les embranchements. C'est pour ça que je revois ça. J'ai cette carte. Alors si c'est bien cette carte-là, il y a une énorme quantité de sectes chrétiennes, les musulmans, et puis il est juste une toute petite chose, et puis il y a un appendice Israël en bas. C'est bien ça, ok. Oui. Ça a été fait par un prêtre français, d'ailleurs. Oui. Oui. Nous avons d'autres midrashim, mais à quoi tu penses? Oui, alors à ce moment-là, Ishmaël se tait. C'est-à-dire, quand Isaac fait la preuve que... Alors, cet argument d'Ishmaël tombe. Je me demande si nous ne sommes pas dans les événements que nous vivons depuis quelques générations en plein là-dedans. Bon, il ne faut pas trop réfléchir à ça. Okay.
En fait, c'est qu'on échange 3 gouttes de sang de l'un contre la vie de l'autre.
Mais la vie qui n'est pas sacrifiée.
Mais le sang est quand même
L'épreuve est quand même expressive. Je crois que la motivation est donnée dans le Midrash. C'est que, au niveau des actes, il semble bien que dans ce Midrash, Ishmaël a un mérite supérieur, puisque c'est adulte, lucide, conscient qu'il accepte, et effectivement, la descendance d'Ishmaël, qui était païenne, au moment de l'islam, a adhéré au monothéisme. Et en principe, sa religion, son idéal religieux, c'est de ne plus être ni idolâtre, donc pas non plus superstitieux, ni Sfirut Damim, assassin, donc pas non plus bref, et ni débauché. Bon, c'est très dur pour cette identité Ishmaël, semble-t-il. Mais son idéal religieux, sa charte religieuse, est très clairement cela. Et donc, il y a un mérite colossal pour ces hommes, pour ce type d'humanité, d'avoir adopté un tel idéal, vu leur préhistoire païenne. Et alors que, eh bien, l'identité juive, c'est une identité de naissance. J'ai tout à l'heure fait allusion à la formulation chrétienne de cette controverse. Mais elle est valable pour l'humanité entière. L'humanité entière pourrait nous dire, eh bien, vous les juifs, vous êtes une race mystérieuse, le peuple de Dieu, on le reconnaît, mais c'est mystérieux, vous venez d'ailleurs, vous n'êtes pas de chez nous, et bon, vous n'avez aucun mérite, vous savez pas ce que c'est que l'homme. Vous savez ce que ça me rappelle? Un juif, c'est pas un homme. D'ailleurs, puisque c'est un dieu. Entendez la théologie chrétienne. Eh bien, ça me rappelle, enfin, on va détendre un peu le tragique du sujet. Vous avez lu Le Petit Monde de Don Camillo, oui, qui est très joli. Mais c'est tout à fait ça. C'est quand, je crois, le maire italien de cette petite ville s'appelait Pepo, ou moi je vous casais. Pepo. Non, Pepo, c'est les Corses. Et on dit à Don Camillo, et quand tu nous racontes tes histoires en chair, là, de la luxure et tout, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Et tu n'es pas italien, tu es curé. Vous avez compris l'argument. Et donc, Camillo qui répond, mais vous savez, quand on me chatouille, je suis chatouillé, mais le maire n'a pas compris encore. Alors, un juif pourrait rentrer là-dedans. Alors, les communistes diraient, bah, vous, Israël. Et le juif pourrait répondre, mais vous savez, nous sommes faits exactement comme vous, apparemment. Oui, alors on y arrive. Attends, dans l'ordre, je crois que c'est la première question. Okay. Alors, voilà ce qui se passe. Isaac, avant le sacrifice, on parle français, avant cette scène, c'est la Midat Adin absolue. Alors, il a fallu que la Midat Adin soit ligotée, atténuée, pour qu'elle soit supportable, vivable. Alors, avant la Hagadat Yitzhak, la descendance d'Isaac, c'est Ésaü, c'est-à-dire la Midat Adin, le légalisme absolu, la raison d'État, Rome, le droit romain. Je me raccorde aux autres analyses qu'on a eues, c'est clair. Après la naissance d'Isaac, c'est-à-dire après la Hagadat Yitzhak, okay, alors Isaac, c'est la Midat Adin atténuée. Elle, cette Midat Adin atténuée, est compatible avec la Midat Hesed pour engendrer la Midat Emet. Alors le Zohar établit qu'avant Hagadat Yitzhak, la Midat Adin non ligotée, ça mène à la royauté des Goïm, Esav. Tandis que après le ligotement d'Isaac, ça mène à la royauté de David. Et les termes sont din caché, din rafé. Le din fort, din caché, pas caché en français, caché en hébreu. Okay? Et din rafé, le din atténué. Alors il y a une comparaison entre Esaü, deux versets, un pour Esaü, un pour le roi David. Pour Esaü, le verset dit qu'il était roux, admoni, Edom. Et pour le roi David aussi, qu'il était admoni, roux, mais yefe enaim, il avait des beaux yeux. C'est-à-dire la Midat HaChesed se voit à travers ses yeux, bien qu'il soit, comme Esaü, capable d'être roi. Mais pas comme Esaü, il est roi gentil. Vous voyez à peu près la différence. Donc c'est une conséquence très importante. C'était très important de ligoter Isaac. Et ce que j'ajouterai dans cette scène, la Midat Adin est ligotée par les mains de la Midat Hesed. C'est Abraham qui ligote Isaac. C'est pas les nazis. Hein. C'est Abraham. Donc ça n'a rien à voir. C'est cette illustration qu'on nous donne de nos épreuves par le sacrifice d'Isaac, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce qui s'est passé, pour dire les choses en clair, ce qui s'est passé dans la Shoah, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui s'est passé dans la Shoah, c'est une barbarie innommable. Ça n'a rien à voir avec ce récit. Ce qui fait que lorsque je lis des textes de théologiens parfois très respectables, faisant cette comparaison, la seule réponse est de leur dire « je ne sais pas de quoi vous parlez ». C'est clair. D'abord parce que le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu, et ensuite parce que qui a ligoté Isaac ? C'est Abraham, c'est pas Himmler. Hein. Vous êtes, oui hein. Non, c'est la Midat HaChesed. Et là encore, il y a un autre thème qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, Abraham achève son œuvre en ligotant de ses mains de chesed la Midat HaDin qui est trop forte. C'est une manière de parler que je n'ai pas encore compris, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Son chesed, encore une fois. Rachamim, c'est la Midat de Jacob. Okay. Oui, alors maintenant je comprends. Ça veut dire qu'il met des limites au caractère dévastateur de la Midat HaChesed si elle est seule. Il faut préciser le langage. Hein? Non. Ce qu'il a de meilleur en lui, c'est la Midat HaChesed. Mais lorsque la Midat HaChesed est absolue en tant que Chesed est seule, elle est dévastatrice. C'est pas un meilleur. Alors je reprends l'analyse. Vous rappelez, le midrash fondamental, c'est que Dieu avait voulu d'abord créer le monde en le basant sur la Midat HaDin. Il a vu que le monde ne pourrait pas subsister. Alors ensuite, il a voulu le créer en le fondant sur la Midat HaChesed. Et il a vu que le monde ne pouvait pas subsister. Il y a une autre version de ce midrash, mais c'est celle-là que je prends. Alors il les a unis, Shitef Otam, et il a fondé le monde sur la Midat HaRachamim. Ça veut dire que le monde ne peut pas subsister si le fondement de l'absolu unique est le din, à la première faute, le monde est fini, non plus si le fondement unique du monde est la Midat HaChesed. Parce qu'un Midat HaChesed couvrira tous les crimes. C'est sa fonction. Un Chesed authentique, eh bien, c'est la charité pour qui ne le mérite pas. Parce que la charité pour qui le mérite, c'est pas de la charité, c'est de la justice. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Voilà. Et donc, ce qu'il a limité, c'est pas ce qu'il avait de meilleur en lui, c'est le risque dévastateur de ce qu'il avait de meilleur en lui, le Chesed. Et je crois que nous sommes juifs, et par conséquent, ça nous est très difficile à penser une Midat HaChesed seule ou une Midat HaDin seule. C'est pas nous, ça. Okay. Mais essayons au moins par la force de l'intelligence. Et on va profiter a posteriori du fait qu'on est à 6000, alors on comprend quand même. Okay. Essayons de penser à la manière d'un chrétien. Que pour un chrétien, il y a une seule valeur authentique, absolue, c'est la charité. Donc, on a beau lui dire, mais l'existence n'est pas comme ça. L'existence, ça m'est égal. L'idéal, c'est l'idéal. L'existence, rendez-la à César. Okay. D'où le christianisme n'est pas adapté au monde, tout simplement. Mais un chrétien comprend cela, un chassid aussi. Mais un chassid est chômeur mitzvot, pas un chrétien. Vous comprenez le problème ? Et pour un chassid, la seule mida valable, qui vaille la peine qu'on en parle, c'est chesed. Le reste, c'est des apparences. Mais tant que vous n'êtes pas chassid, vous ne pouvez pas comprendre ça. Ne croyez pas qu'être chassid, c'est des idées, c'est une manière d'être. Est-ce que c'est clair, je veux dire? On n'adhère pas à la chassidoute avec une carte de parti. Chasse, dégalatora, ce que je sais, moi. Agotat Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. C'est une manière d'être. Et les chassidim sont cohérents. Pour eux, le mot, ils sont fils d'Abraham, mais en Israël. C'est ça qu'il faut mettre en évidence. Un fils d'Abraham en dehors d'Israël. C'est pas chassid, c'est acide. Vous connaissez l'acide acétique, les acètes, quoi. Et alors, Et par conséquent, il faut arriver à l'identité d'Israël pour que la famille d'Abraham réussisse dans son objet d'identité. Pour arriver à savoir que nous sommes Torah, Tziva, Lanou, Moshe, Morasha, Kielat, Yaakov. Et pourquoi pas Isaac et Abraham ? Donc on retrouve de nouveau le même enseignement. La descendance d'Abraham n'a pas besoin de Torah de Moshe. Si un homme de charité ne sait pas ce qu'est la charité, on n'a plus rien à lui dire. Il n'y aura besoin de Torah, un homme de la charité. Ou bien il sait ce que c'est que la charité, ou il ne sait pas. De la même manière pour un homme de la rigueur. On n'a pas besoin de Torah pour être chrétien ou pour être marxiste. Pas besoin. Okay. On a besoin de Torah pour être juif. C'est très différent. Bon, je pense que c'est clair maintenant.
Au Har Amoria, à un moment précis, j'en ai l'impression, et Abraham et Isaac arrivent à limiter leur leader en fait, respectif, mais à ce point précis, quand on pense qu'Abraham, avant, il y a eu, disons, l'aléa d'Ismaël, hein, mais comment comprendre que, alors que Isaac n'avait pas encore une descendance et a déjà eu cette expérience-là, comment on peut comprendre
qu'il y a Ésaü. C'est pourquoi je vous ai cité sur cet enseignement le Zohar, pas le Midrash. Le Zohar nous l'enseigne au niveau métaphysique. Le Midrash enseigne au niveau historiosophique, si vous voulez. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est pas le Midrash que je vous cite, c'est le Zohar, pour répondre à votre question. Mais je crois que, effectivement, vous avez apporté une précision qui nous permet de nous relier avec le premier Midrash que nous avons étudié, si vous étiez là. Que l'Ech Lecha d'Urkazdim avait pour objet le Har HaMoria. Ça veut dire, c'est au Har HaMoria qu'Abraham et Isaac deviennent Israël. C'est clair ? Vous avez bien compris ? Comment ?
Je ne veux pas dire une bêtise. Est-ce que Abraham a sacrifié son...
Il a sacrifié ce qu'il y avait de dangereux dans un chesed qui ne serait que chesed.
Et est-ce qu'on peut dire aussi alors que Isaac a sacrifié ce qu'il y avait dangereux dans son vie ?
Non. Isaac était prêt à se sacrifier. Il était prêt à ça. Et c'est ça, Isaac. Il y a un enseignement de la Kabbalah qui l'explique comme ça. Nous, normalement, nous sommes voués au sacrifice d'Isaac, toute créature. Mais nous monnayons le sacrifice d'Isaac à travers toutes les mitzvot. Nous le monnayons, je ne trouve pas d'autre mot. Les 613 mitzvot équivalent au sacrifice d'Isaac et on a toute une vie pour ça. Et alors à chaque mitzvot, on acquiert un point de l'être d'Isaac. Vous avez un peu compris ça ? Et c'est pourquoi c'est très... Bon, je vais un peu vous inquiéter. Quand on n'a pas fait le mitzvot, on l'a perdu, et bien on l'a perdu. Il ne faut jamais perdre de mitzvot. Bon, il y a des compensations. Hein, qui pour ça existe. Puis demandez à votre rabbin, vous expliquez. Bon, voilà pour votre réponse. C'est clair. Alors, il nous reste cette question. Il faut lire attentivement le premier chapitre de Job pour comprendre les causes immédiates de la mise à l'épreuve de Job et ce que dit le Satan dans le livre de Job. Là, ici, nous avons les Malachi Hasharet, mais là-bas, c'est livré à Satan. Mais nous avons certains Midrashim sur ce texte aussi qui disent livré à Satan. Okay. C'est que la formulation est ainsi. Dieu dit au Satan, lorsque tous les anges plus le Satan viennent rendre compte, c'est le jour de Rosh Hashanah, ce jour-là, le Hayom, le jour où ça se passe. Alors le Satan dit, Dieu dit, est-ce que vous avez vu le juste que j'ai sur terre, Job ? Dieu était fier d'un juste qui est Job, parce que le texte atteste qu'il était tzaddik et qu'il ne faisait pas de mal. Et alors le Satan dit, ben il n'a aucun mérite, tu le combles de tes bienfaits, pourquoi il ne serait pas tzaddik ? Laisse-moi le priver de tes bienfaits, un par un, et tu verras s'il sera tzaddik ou pas. Alors Dieu lui donne cette permission. Mais il lui donne une consigne, ne porte pas atteinte à l'intégrité de son nefesh. Ne le rend pas fou, ça veut dire à la limite. Et par conséquent, lorsque ensuite il y a la mise à l'épreuve, et les épreuves, rappelez-vous du récit, c'est d'abord les possessions les moins proches de sa personne, ensuite les plus proches, puis son corps lui-même. Et alors à ce moment-là, les amis de Job, les théologiens, se rassemblent autour de lui pour faire le procès de Job. Et en général, ils ont tendance à dire, ne dis pas que ta souffrance est injuste, tu as sûrement fait une faute. Et vous voyez à quel point ça ressemble étrangement à tous ces débats délirants que nous avons autour des épreuves. Okay. J'ai entendu ça encore hier soir, ce qui était à la conférence hier soir, et je l'ai noté. On n'a pas le droit de dire que les kabbalistes disent, quand une épreuve arrive, un cataclysme, que c'est la punition d'une faute. On n'a pas le droit. Okay. C'est clair. Okay. Donc, alors chaque fois que vous entendrez ça, vous pouvez dire, c'est pas la tradition juive. Et on impute souvent à la tradition juive des choses qui existent, mais qui sont ailleurs que dans la tradition juive. Et Dieu se révèle aux théologiens, les amis de Job. Et je schématise beaucoup, hein, parce que le texte est beaucoup plus précis. Il y a 4 discours différents, 3 qui reviennent à cette thèse. Tu dis que tu es sadique, mais Dieu seul sait si tu l'es, peut-être tu ne l'es pas. C'est Dieu qui est sadique. Et un quatrième discours qui est un peu différent. Bon, mais je schématise tout cela. Et Dieu dit aux amis de Job, vous avez mal parlé de Job, taisez-vous, c'est un sadique. Et plus clair que ça, on peut pas le dire. Alors reste la question, et pourquoi Job a été mis à l'épreuve? Et je schématise beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut lire attentivement le premier chapitre. Le premier chapitre indique que le monde de Job, le monde familial de Job, c'est le monde de la fête, du bonheur terrestre. Ils sont comblés de tous les biens et ils passent leur semaine de fête en fête chacun des fils de la famille à tour de rôle. Vous vous rappelez de cela? Mais qu'à la fin de chaque soir de fête, de chaque nuit de fête, Job offrait un sacrifice de peur que dans leur fête, ses enfants aient blasphémé. Vous vous rappelez de cela? Bon. Ça veut dire que Job est un juste qui est un juste absolu, n'a pas fait de faute, mais qui n'est pas sûr de la vertu de sa descendance. Est-ce que c'est clair suffisamment? C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de gamme, de faille dans ses actes. Il y a quelque chose dans son être qui nous dépasse et que le jugement de Dieu seul peut connaître. Mais le texte le dit clairement que Job, par précaution, offrait des sacrifices d'expiation de peur que il se soit arrivé quelque chose qui n'était pas en ordre pendant le michté de la nuit, pendant le festin de la nuit. Et alors la Gemara, c'est dans Baba Batra, dans les pages 10b, je crois. C'est une référence très connue, ne vous impressionnez pas. Eh bien, Baba Batra situe Job à chaque époque de passage d'un temps culturel à un autre temps culturel de l'histoire d'Israël. Job, c'est d'abord Terah, pour la Gemara, le père d'Abraham. Job vivait au temps d'Abraham, la Kabbalah précise, Terah. Et Job a commencé à souffrir lorsqu'Abraham s'est circoncis. Ça veut dire le juste d'un temps donné, lorsque apparaît le juste du temps suivant, qui est de niveau supérieur, alors le juge du temps précédent, qui était juste, qui n'a fait aucune faute, est disqualifié. Terah commence à souffrir quand son fils Abraham accepte la circoncision. Bon, c'est un modèle d'exemple. Et puis on nous situe Terah à la sortie d'Égypte, Job à la sortie d'Égypte. On nous situe Job au temps du roi David, etc. Et ça veut dire chaque fois que l'histoire passe d'un cycle à un autre cycle, le juste du cycle précédent qui n'a pas passé dans le cycle suivant commence à souffrir. Ça, c'est les souffrances de Job. D'après la Gemara, ça n'a rien à voir avec des punitions. Vous avez compris? Donc vous voyez que l'histoire de Job est parallèle à l'épreuve d'Abraham et de ce texte, mais c'est un autre thème. Bien, ben je crois qu'il est l'heure suffisamment. Alors on se retrouve pour la séance de ce soir à 8h30. Alors demain, rappelez-moi, enfin qui va me rappeler, qu'on va étudier le texte du Zohar. Après, je vous signale alors que, en principe, vendredi matin, je suis disponible. Donc, ça dépend de vous. Si vous êtes disponible vendredi matin, on aura cours de 10h à midi. Mais est-ce que vous l'êtes? Oui. Bon. Alors, je vous confirme demain soir. Mais en principe, c'est... On ne sait pas. Avant, ça révise. En principe, c'est de 10h à midi vendredi. D'accord ?